E-Radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Euradio dans ce nouvel épisode de l'émission Enquête d'Europe, animée par les étudiants du Master 2 de Sciences Politiques de l'Europe à Nantes. Je me présente, je suis Maude Leterrier, je suis accompagnée de Léa Sictor. Au programme aujourd'hui, l'identité européenne et le sentiment d'appartenance à l'UE, à l'échelle locale nantaise. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par identité européenne ? Depuis les années 1990, l'identité européenne est une notion qui a été placée au cœur des débats d'idées sur l'avenir et la pérennité de l'Europe. En effet, selon certains chercheurs, une Europe fondée uniquement sur des réalités économiques et des intérêts communs ne peut pas perdurer. Il s'agit aussi d'identifier ce qui lie les individus entre eux, ce qui fait le lien et leur volonté de vivre ensemble. Certes, le développement de certains piliers tels que la monnaie, les politiques ou encore symboliquement le drapeau européen a permis une meilleure intégration européenne à l'échelle nationale. Toutefois, l'identité européenne n'est pas autant ressentie que l'identité nationale. En effet, les États membres de l'Union européenne ne partagent pas tous la même langue ou les mêmes traditions qui sont des caractéristiques essentielles d'appartenance. L'Union européenne n'est pas née naturellement, c'est un processus intentionnel. C'est pourquoi cultiver une identité européenne serait un élément essentiel d'une meilleure intégration européenne et donc la pérennité du projet européen. Aujourd'hui, un étudiant, par exemple, dira davantage qu'il est français qu'européen à un étranger. C'est principalement pour les habitants extra-européens que l'on paraît le plus européen. Il y a une sorte de définition de l'identité à la négative. Cependant, créer un réel sentiment d'unité parmi les individus et les nations membres de l'Union européenne est un réel enjeu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'intégration européenne à l'échelle locale, notamment suite au contexte de crise de la guerre en Ukraine.
Enquête d'Europe.
Pour échanger sur le sujet aujourd'hui avec nous, Jenny Raflick, enseignante chercheuse en histoire contemporaine au sein de l'Université de Nantes. Parmi vos travaux, on trouve notamment l'étude de la question de l'identité européenne à travers l'identification des vecteurs porteurs de celle-ci, ainsi que l'analyse de la question identitaire comme un enjeu pour l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Ce sont ces différents éléments qui nous ont amenés à souhaiter vous avoir avec nous aujourd'hui. Avec nous également aujourd'hui, Kevin Jezekel, président du Mouvement européen de Loire-Atlantique et membre du bureau de l'Union des fédéralistes européens en France. Mouvement européen 44 est une association qui regroupe, au-delà de leurs appartenances politiques, les femmes, les hommes et les associations qui souhaitent s'engager en faveur de la construction européenne. Le mouvement européen Loire-Atlantique est une section locale du mouvement européen France, qui réunit les militants du département pour faire vivre le débat sur l'Europe. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre expérience sur le terrain nantais, entre guillemets. Alors pour cette première question, nous vous demandons, malgré le fait que l'identité européenne soit parfois complexe à définir, est-elle un élément essentiel pour une meilleure intégration européenne ? De quelle manière se manifeste-t-elle principalement et à l'échelle locale également ?
Je voudrais revenir sur un petit point, la question de l'identité européenne. Effectivement, on l'aperçoit peut-être bien dans le débat public depuis les années 1990, mais justement, il y a peut-être une piste de réflexion avec un décalage chronologique, c'est qu'en réalité, elle est présente et elle fait l'objet d'attention des initiateurs de la construction européenne depuis les années 40. Et donc, on peut peut-être se poser la question justement de ce décalage, pourquoi l'opinion publique ne commence à s'intéresser à cette question qu'aussi tardivement. Parce que si on remonte un peu les années, la question de l'identité européenne, elle est déjà au cœur du congrès de La Haye de 1948, qui est vraiment un moment fondateur dans la pensée européenne. C'est la raison d'être du Collège de l'Europe de Bruges, qui est créé en 1949 et qui réfléchit et qui va nourrir beaucoup de publications sur ces questions. C'est l'objet permanent des réflexions du Conseil de l'Europe. C'est l'objet de la déclaration de Copenhague, la déclaration sur les identités européennes de 1973. C'est encore l'objet de la relance de Fontainebleau de 1984 et puis des décisions du Conseil européen de Milan de 1985. La fête de l'Europe, le drapeau européen, l'hymne européen, tout ça date de 1985. Donc, on a une très longue histoire de réflexion sur l'identité européenne et effectivement, elle entre pleinement dans le débat politique, dans le débat public, dans l'espace public européen. On peut s'interroger sur l'existence de cet espace public européen à partir des années 90-2000. Et finalement, il y a tout un substrat dont l'opinion publique n'a pas connaissance ou dont les décideurs n'ont pas su se saisir pour lancer justement cette réflexion auprès de l'opinion publique.
Vous avez quelque chose à ajouter ?
Oui, alors j'étais très content d'entendre Madame Raflik parler du congrès de La Haye, puisque c'est le congrès fondateur de l'association que je représente, le mouvement européen, et donc qui montre effectivement l'ancienneté du sujet. Après, en Loire-Atlantique, ce qu'on peut noter, c'est que l'idée européenne, elle est très présente. Il y a un terreau qui est très favorable, avec une société qui est déjà sensibilisée à la question européenne. Et c'est très différent et c'est notable par rapport à d'autres régions de France ou d'Europe. Il y a également une dynamique associative assez importante qui contribue à ça également. Après, lorsqu'on parle d'identité, pour moi, il y a un gros obstacle à l'émergence d'un sentiment d'appartenance ou du sentiment d'un destin commun. C'est vraiment l'absence d'espace public européen. Je m'explique. En France, il y a de nombreux médias qui sont au mieux indifférents à la question européenne, qui maîtrisent peu le sujet. Ici, en Loire-Atlantique, on a la chance d'avoir Ouest France, qui est un média militant, on peut le dire, sur la question européenne, avec des journalistes qui sont spécialistes du sujet. Par exemple, Fabien Cazenave à Rennes. Dans un autre genre complètement, on peut parler du travail fourni de Jean Quatremer, qui est le correspondant de Libération à Bruxelles. Mais tout ça, finalement, c'est une goutte d'eau, et ça remplace pas des médias à l'échelle européenne. Et des médias à l'échelle européenne, on en a très peu, pas en très bonne forme en plus. On voit par exemple les difficultés qu'a Euronews avec la fermeture récente de son siège à Lyon. On voit aussi qu'il y a une certaine difficulté, je pense, du fait des multiples langues parlées au sein de l'ensemble de l'Union, mais ça explique pas tout, puisque par exemple aux États-Unis, il y a plusieurs langues qui sont parlées, ça a jamais posé un problème pour la construction d'un espace public à l'échelle du pays. Peut-être un petit mot, il y a une étude là qui est sortie de la Fondation Jean Jaurès, qui est sortie la semaine dernière, sur la question de l'Europe à travers les médias français. Et il y a un chiffre qui m'est resté. Il y a seulement 57% des Français qui disent avoir vu ou entendu un sujet d'actualité sur l'Union européenne récemment. Et c'est le dernier rang des 27 États membres de l'Union sur ce plan. Si on prend les radios RTL, France Info, Europe 1, RMC, l'Union européenne, c'est 2% des sujets d'information. Donc on voit bien que malgré la guerre en Ukraine, on pourra peut-être en reparler juste après, le volume de sujets sur l'Europe, il est extrêmement limité. Et on peut se demander comment est-ce que les citoyens peuvent se sentir européens et s'identifier à l'Europe s'ils en entendent jamais parler.
On peut peut-être ajouter aussi qu'un des problèmes, c'est que le débat est souvent arrivé dans les périodes de crise. J'ai cité quelques exemples. La déclaration de Copenhague sur les identités européennes, c'est en pleine crise pétrolière. Et en fait, cette identité européenne, dans les discours publics, elle se construit souvent contre un ennemi extérieur. Très souvent d'ailleurs, contre un ennemi qui n'est pas vraiment un ennemi, qui est plutôt un allié avec lequel on a des difficultés relationnelles qui sont les États-Unis. Et ce discours, il prend davantage à l'échelle d'abord des communautés européennes, ensuite de l'Union européenne, hein, avec la guerre en Ukraine, on va y revenir, mais il prend davantage une dimension géopolitique, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur, qu'une dimension interne et qu'un effort de cohésion à l'intérieur. Et donc, finalement, on s'adresse aux autres à l'échelle des dirigeants et on ne s'adresse pas tellement aux citoyens.
Du coup, justement, pour revenir sur l'Ukraine, on voulait vous demander si dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, le conflit a, entre guillemets, accentué l'idée que nous sommes européens. En effet, on a remarqué une large mise en place de solidarité. Est-ce que c'est ce sentiment d'appartenir à un grand et même ensemble qui a eu pour effet que la situation des Ukrainiens ait beaucoup touché la nation européenne, sachant que l'Ukraine n'est pas le seul pays en guerre autour de nous et que les politiques migratoires sont un sujet qui font quand même polémique au sein de l'UE.
On voit qu'il y a une nette accélération du sentiment européen dans l'ensemble des pays, mais en particulier dans les pays qui sont géographiquement proches de la Russie. Un exemple, l'exemple moldave, puisque la présidente de la Moldavie a déclaré il y a un mois que le pays souhaitait entrer aussi vite que possible dans l'Union européenne. Le rapprochement de la Finlande et de la Suède de l'OTAN, c'est un fait majeur aussi, même si, évidemment, il ne faut pas confondre l'OTAN et l'Union européenne. L'exemple bulgare, puisqu'il y a eu l'élection d'un gouvernement pro-européen après des mois de tensions. Exemple qui montre quand même qu'il y a des tensions Est-Ouest qui peuvent rester très vives à l'intérieur de l'Union européenne. Peut-être pour revenir sur l'exemple bulgare une seconde, c'est un exemple qui est intéressant parce que c'est assez difficile de promouvoir l'Europe en Bulgarie comme dans d'autres pays d'Europe de l'Est, notamment parce que la Bulgarie ne fait pas partie de l'espace Schengen, n'a pas l'euro, également parce qu'il y a des prises de position plus que dévalorisantes des représentants politiques d'autres États européens vis-à-vis des Bulgares, je pense notamment en Autriche, aux Pays-Bas, ce qui fait que les Bulgares peuvent avoir le sentiment d'être la cinquième roue du carrosse en Europe, finalement. Donc, on voit un gouvernement pro-européen en Bulgarie, je pense que c'est quand même un signe extrêmement important. Autre exemple, alors auquel on ne penserait pas forcément, le Parlement estonien vient de légaliser le mariage pour tous. Alors, c'est un sujet qui peut paraître relativement éloigné, mais les défenseurs du texte, lorsque le Parlement l'a validé là, il y a quelques jours, ont souligné que ce vote permettait de rompre une bonne fois pour toutes avec l'idéologie de l'ère soviétique. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une volonté de vraiment de se rapprocher peut-être de ce qui est perçu, en tout cas, comme les valeurs européennes, de s'éloigner de l'ère russe, et c'est vraiment significatif. À côté de ça, il y a de l'autre côté, plus en Europe de l'Ouest, cette fois-ci, une montée des populismes. Donc très rapidement, l'élection de Madame Meloni en Italie l'année dernière, la progression des partis d'extrême droite lors des élections en Suède, en Finlande, le mouvement des agriculteurs citoyens aux Pays-Bas, la montée de l'AFD en Allemagne, de Vox en Espagne, les néo-nazis là, qui viennent de revenir au Parlement en Grèce, la montée des populistes en France également, donc rien de rassurant là-dessus sur la perspective des prochaines élections au Parlement européen en 2024. Donc finalement, le tableau est extrêmement nuancé.
J'ajouterais peut-être que quand même, là encore, face à l'extérieur, finalement, la guerre en Ukraine a permis une cohésion parce qu'on s'est trouvé un ennemi commun. Et des pays qui... Il faut se rappeler des tensions autour de l'année de 2015-2016, où les pays d'Europe occidentale étaient très concentrés sur la crise migratoire et sur les attaques terroristes, alors que les anciens pays d'Europe de l'Est, les pays qui étaient plus proches de la Russie, continuaient à évoquer la menace russe. Et finalement, chacun regardait stratégiquement dans une direction opposée. La guerre en Ukraine a permis de rapprocher les intérêts. Et finalement, quand les intérêts vitaux, la sécurité, se rapprochent, il est plus facile d'avoir un discours de cohésion au niveau des décideurs, au niveau des dirigeants. Et puis, il y a un deuxième aspect qui me semble quand même très important, mais là, il faudrait avoir les effets positifs ou négatifs sur le long terme, parce qu'il y a vraiment une question de durabilité. C'est que pour la première fois depuis quand même très longtemps, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a fait sienne une position unique, a fait sien un discours de puissance à l'international, mais aussi cette fois à l'interne, c'est-à-dire on va vous protéger. Elle s'est donnée à voir et sans doute, finalement, l'Union européenne a investi un domaine qui était régalien, celui de la sécurité, celui de la défense, pour proposer une alternative. Et pour la première fois, on voit bien qu'unis, finalement, on est plus fort que tout seul. Je ne sais pas ce que seront les effets sur le long terme, mais ça pourrait quand même imprégner les esprits, imprégner les mentalités et donner à voir l'Europe au quotidien dans les années à venir. Donc, je pense qu'il faudra suivre. Quand on regarde les sondages Eurobaromètre, l'Europe de la défense, alors même si on ne sait pas toujours très bien ce qu'on va mettre derrière cette expression, mais ça fait partie des éléments que les Européens attendent le plus. Ça fait partie des éléments les plus populaires sur lesquels il y a beaucoup d'attentes et d'espoir. Et peut-être que c'est de ce côté-là, finalement, avec la guerre en Ukraine, qu'elle va commencer à se mettre en place et devenir concrète aux yeux des Européens.
Pour rebondir avec ce que vous m'avez répondu, Jenny, vous pensez donc que c'est plus visible ce sentiment d'appartenance à l'international plutôt qu'à l'interne de l'Europe ? Via la guerre en Ukraine.
Les sanctions qui ont été prises pour la première fois, l'Europe s'est vraiment imposée. On a vu aussi un interlocuteur européen, notamment dans les grands sommets internationaux. J'ai le sentiment, alors à la fois comme citoyenne et comme chercheur, j'ai le sentiment que l'Europe s'est donnée à voir et qu'on a pu identifier l'acteur européen. C'est-à-dire qu'on n'avait plus, comme trop souvent dans les crises précédentes, des représentants des États européens qui étaient ensemble en disant « on participe à quelque chose de commun ». On avait un ou deux interlocuteurs qui disaient « moi, je représente l'UE » et non pas tel ou tel pays membre de l'UE. Et donc, pour la première fois à l'international, on a vu et on a identifié ce que pouvait être l'Union européenne comme acteur.
À mon sens également, la question, elle n'est pas tant de savoir si on est pro ou anti-Europe, mais finalement de quelle Europe on veut. Et bon, à mon sens, basiquement, il y a deux façons de voir l'avenir des institutions européennes. Soit on veut une Europe de la coopération entre les gouvernements des États. Alors cette coopération, elle peut être forte, c'est peut-être un projet politique plus qui est celui du parti politique Renaissance, par exemple. Elle peut être beaucoup plus légère, ce serait peut-être ce que dirait plus la France Insoumise ou le Rassemblement National. Mais basiquement, le projet politique, il est assez analogue, c'est-à-dire qu'il dit que la légitimité démocratique, elle doit rester au niveau des États. Et puis, il y a la vision alternative qui considère donc qu'il va falloir une Europe plus forte, plus unie, plus démocratique, qu'il faut un gouvernement européen qui soit responsable devant un Parlement démocratiquement élu par les citoyens, un niveau européen qui soit autonome des États. Et donc cette vision-là, c'est celle d'une Europe fédérale. Alors cette vision, elle reste aujourd'hui très minoritaire en France, mais elle impacte beaucoup plus les débats publics. Par exemple en Allemagne, en Belgique, en Italie, ou même en Catalogne, en Écosse. Même si l'Écosse, malheureusement, malheureusement pour eux, est sortie de l'Union. Bon, c'est le système politique aussi des États-Unis, hein, de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne notamment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est entre deux, parce qu'elle fonctionne principalement dans une logique de coopération. Il y a aussi des éléments, notamment sur l'aspect plus financier qui la rapproche du fédéralisme. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, aujourd'hui, l'entre-deux, il est pas tenable. Il faut choisir un système et avoir un système de fonctionnement cohérent au niveau européen. Bon, moi, évidemment, mon avis et celui du mouvement européen et de l'UEF, c'est qu'il faut que le système de coopération n'est pas suffisant, qu'il faut passer à un système fédéral. Et deux exemples, par exemple, qui en montrent la nécessité. Le fait qu'aujourd'hui, les Européens soient incapables de s'accorder sur une défense commune ou des politiques, ne serait-ce que des politiques d'équipement militaire commun. Et puis également, un autre exemple qu'on retrouve beaucoup dans l'actualité aujourd'hui, c'est les politiques d'immigration qui n'est pas du tout au point au niveau européen, avec des États qui n'arrêtent pas de se renvoyer la balle, quoi. Donc là-dessus, encore une fois, on ne peut pas rester dans un entre-deux permanent.
Pour terminer, on se demandait comment Nantes lie la culture européenne et la culture nationale. Par quel biais la sensibilisation à l'Europe, elle se fait sur le territoire nantais?
Bon, très, très rapidement, encore une fois, la société, comme je disais, en Loire-Atlantique, est déjà sensibilisée à la question européenne. Il y a un terreau qui est favorable. Il y a une forte dynamique associative. Peut-être souligner le travail important de la Maison de l'Europe de Nantes, qui est une des 35 maisons de l'Europe en France, un des 50 centres Europe Direct, donc labellisé par la Commission européenne pour servir de relais d'information auprès du grand public sur les questions européennes. À Nantes, la Maison de l'Europe, c'est plus de 1000 m² d'espace à disposition d'une trentaine d'associations membres. C'est soutenu par les institutions, donc Nantes Métropole principalement. C'est probablement la Maison de l'Europe ayant le plus de moyens en France et qui travaille vraiment pour valoriser le sentiment d'appartenance à l'Union européenne, rendre celui-ci concret à travers des activités. Alors, il y a à la fois des activités à dominante éducative, des interventions dans les écoles, par exemple, qui peuvent être faites par la Maison de l'Europe ou par ses associations membres, notamment les Jeunes Européens, qui sont l'association de jeunes du mouvement européen. Des activités à dominante culturelle, donc cours de langue, conférences, concerts. Il y a un grand point d'orgue chaque année qui est la fête de l'Europe aux alentours du 9 mai. Des conférences débats sur des thèmes géopolitiques. Voilà, donc il y a tout un panel d'activités qui est étendu, à la fois en propre par les salariés de la Maison de l'Europe et à la fois par le travail de l'ensemble des associations qui sont accueillies, dont donc le mouvement européen et l'UEF. Voilà, donc des associations qui pour certaines sont très culturelles, d'autres qui sont plus militantes. Et puis enfin, peut-être pour terminer, rappeler également le rôle important des comités de jumelage qui sont très importants en Loire-Atlantique, très nombreux. Par exemple, un exemple parmi d'autres, Nantes est jumelé avec Aix-Sarrebruck en Allemagne. Et enfin, le rôle des établissements scolaires qui font partir énormément de jeunes en Erasmus. Alors, les étudiants, bien sûr, mais aussi, je voudrais rappeler qu'il y a de nombreux lycéens des filières professionnelles, on le sait moins, qui partent en Erasmus. C'est un exemple parmi d'autres. Le lycée d'Anceny fait partir chaque année des jeunes dans différentes régions d'Europe, et notamment en Finlande. Il y a énormément de lycéens de la filière professionnelle d'Anceny, voilà, qui, chaque année, partent à Tempéré, en Finlande. Voilà.
Et à ce tableau, j'ajouterai les formations de Nantes Université sur les métiers de l'Europe, dont celle que vous suivez.
Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Nous sommes ravis d'avoir pu échanger avec vous. Ainsi s'achève l'émission Enquête d'Europe aujourd'hui. Nous remercions encore Jenny Raflik et Kevin Jezekel pour leur participation. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur Euradio.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.